RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Baptiste Madinier.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, la question du droit des étrangers à l'intérieur des centres de rétention. 5 associations questionnent l'utilité des CRA et dénoncent des enfermements abusifs. Aucun écran avant 3 ans, aucun smartphone avant 11 ans. Un rapport a été remis à Emmanuel Macron aujourd'hui. Il alerte sur l'hyperconnexion des enfants. Et puis, suite de notre série sur les élections européennes, dans notre long format ce soir, nous irons en Grèce. Les centres de rétention administrative sont-ils vraiment utiles? C'est la question que pose en substance le rapport publié aujourd'hui par 5 ONG, dont la CIMAD et Forum Réfugiés. Il concerne ces centres de rétention administrative destinés aux personnes étrangères censées être éloignées du territoire national. 40 ans après leur création, on en compte 25 aujourd'hui en France, dont 4 en Outre-mer. Et en 2023, près de 47 000 personnes sont passées par des CRA, dont 30 000 dans les Outre-mer. Un chiffre en hausse par rapport à l'an passé. Et cette hausse des détentions administratives est d'ailleurs l'une des critiques du rapport, Jean-Baptiste Labeur.
Les associations dénoncent en effet l'utilisation, je cite, détournée et disproportionnée de ces lieux à des fins sécuritaires. Le rapport critique également la durée d'enfermement. Elle ne cesse de s'accroître. Elle est en moyenne de 28 jours et demi aujourd'hui. Les conditions de rétention sont aussi pointées du doigt. En plus d'une hausse des violences, c'est l'insalubrité généralisée et un manque de personnel dont s'émeut le rapport. Appuyé dans ce sens par l'avis émis en juin dernier par le contrôleur général de privation de liberté, qui affirmait que les conditions de prise en charge y sont, dans la majorité des cas, attentatoires à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes retenues. Enfin, c'est la raison d'être des centres de rétention qui est remise en cause par les associations. Selon le gouvernement, ces centres sont indispensables pour opérer les mesures d'éloignement en dehors du territoire français. Or, dans l'Hexagone, seulement 36% des personnes passées par ces centres sont réellement expulsées. Mis à part à Mayotte, une part significative des éloignements est en fait réalisée hors des centres de rétention, concluent les associations.
Voilà, et le gouvernement aspire à augmenter le nombre de places disponibles dans ces CRA avec un objectif de 3000 places d'ici 2027 contre 2000 aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité ce soir, les mobilisations pro-palestiniennes dans les universités peuvent-elles se généraliser en France? Après Sciences Po Paris vendredi et la Sorbonne hier, des manifestations ont eu lieu en dehors de la capitale aujourd'hui. La police a notamment délogé des étudiants à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. À Grenoble, une centaine d'étudiants ont organisé un sit-in. Des mobilisations sont également rapportées dans les campus de Sciences Po Lyon, de Sciences Po Dijon. Enfin, nos collègues de France Info rapportent les fermetures des campus de Tolbiac à Paris et de Sciences Po Menton dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, 2 députés de la France Insoumise ont été entendus par la police aujourd'hui pour apologie du terrorisme. En cause, des propos concernant les attaques du 7 octobre dernier en Israël. Mathilde Panot et Rima Hassan dénoncent une censure. Sur le terrain, l'espoir d'une trêve à Gaza se fait toujours attendre. Les représentants du Hamas ont quitté le Caire sans donner de réponse hier. Joe Biden demande à l'Égypte et au Qatar, qui sont les médiateurs, de faire pression sur les mouvements palestiniens. De son côté, Israël affirme qu'elle attendra une réponse jusqu'à mercredi soir. La Commission européenne ouvre une enquête contre Facebook et Instagram. L'UE veut mettre la pression en matière de désinformation. Elle soupçonne les deux plateformes de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre cette désinformation. Et puis vers la fin des écrans pour les enfants, je vous le disais en titre, en France, un rapport d'experts a été remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Il alerte sur la réalité de l'hyperconnexion subie par les enfants. Le rapport propose plusieurs recommandations en fonction de l'âge de ces enfants, comme l'interdiction de l'usage des écrans au moins de 3 ans, entre 3 et 6 ans, un accès fortement limité, pas de téléphone portable pour les moins de 11 ans, puis à 13 ans, des téléphones mais sans accès à Internet ni aux réseaux sociaux. Il appelle également ce rapport à éviter les plateformes populaires comme Instagram ou TikTok avant 18 ans. Autant de mesures intéressantes selon l'association La Voix de l'Enfant, mais pour sa présidente, Martine Brousse, il faut accompagner les parents dans ces démarches. Écoutez.
Il faut accompagner les parents. Je crois que ça, c'est très, très important. Il y a des parents d'abord parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein, ils travaillent tôt le matin, à 5 heures, ils partent faire des ménages, ils partent, ils ont les transports, ils ont, bon, hein, ils ont pas le temps. Et puis, il y en a qui peuvent pas, qui savent pas, puis que ça les intéresse pas. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait non pas une aide aux parents, mais un accompagnement des parents. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une démarche éducative vers les enfants. Mais ça, c'est tout petit. Essayons de voir comment j'accompagne depuis son plus jeune âge mon enfant pour que justement, il soit pas addict à l'écran, aux écrans, aux jeux, etc. Parce que c'est ça l'important.
Au Royaume-Uni, le roi Charles III a repris ses activités aujourd'hui, 3 mois après l'annonce de son cancer. Il s'est justement rendu dans un centre spécialisé contre le cancer ce matin. En foot, pour finir, Ligue des Champions ce soir, match de demi-finale aller avec le Bayern de Munich qui rencontre le Real Madrid à 21h. Demain, ce sera le Paris Saint-Germain qui défiera le club allemand du Borussia Dortmund. 5e épisode de notre série hebdomadaire qui doit nous emmener jusqu'aux élections européennes du 9 juin. Chaque semaine, dans notre long format de soir, nous vous proposons un éclairage sur les enjeux internes d'un pays membre des 27. Et ce soir, c'est avec vous, Grégoire Gindre. Bonsoir.
Bonsoir Baptiste, bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes donc à 5 semaines de ces élections européennes et ce soir, nous nous penchons sur le cas de la Grèce, Grégoire.
Oui, pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, pointé du doigt pendant la crise de 2008 pour ses soucis économiques et financiers. La Grèce fait figure de mauvais élève de l'Europe. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis en a bien conscience. Au pouvoir depuis 2019 et président du parti La Nouvelle Démocratie, il se targue pourtant d'un solide bilan économique. Georges Prevelakis est professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Grèce. Et pour lui, si le pays va mieux, c'est grâce à une coalition parlementaire informelle effectuée avec le PASOK, l'autre parti, celui d'opposition.
La principale, si vous voulez, raison de la réussite de Mitsotakis, c'est qu'il a pu obtenir le soutien de beaucoup des cadres du PASOK. Donc, la Nouvelle Démocratie se présente comme une sorte d'alliance informelle qui ne s'avoue pas, du parti traditionnel, si vous voulez, conservateur, qui est la Nouvelle Démocratie, et aussi du Parti Socialiste. C'est une sorte de coalition informelle et inavouée entre les conservateurs. Et donc, on peut dire que le centre de gravité de la Nouvelle Démocratie se situe dans le centre droite. C'est plutôt vers le centre que vers la droite. Donc, l'image qui existe en France d'un parti conservateur de droite appartient au passé.
Le purgatoire financier appartient aussi au passé en Grèce. L'année dernière, le pays a connu une croissance 4 fois plus élevée que celle de la zone euro. Une irrégularité pour Athènes qui sort de 15 ans de dépression historique.
Les chiffres sont très favorables, sont très bons. Mais bien sûr, il y a de faiblesses, je dirais, structurelles. Une des causes de l'amélioration de la situation économique, c'est le boom touristique. Mais on a du mal à développer une base industrielle. Donc, il y a des faiblesses des structures, mais les indicateurs sont assez positifs. Le grand problème de l'économie grecque, qui est la dette, eh bien, dans ce domaine aussi, les choses s'améliorent graduellement. Mais c'est aussi, bien sûr, un peu un effet de l'inflation, n'est-ce pas? Donc, c'est à la fois une bonne chose et un aspect qui pose problème parce que l'inflation aggrave les inégalités au sein de la population.
L'inflation, première priorité du gouvernement, près de 4% sur un an en 2023. Certains prix atteignent ceux connus en France, sauf que les salaires, eux, vous vous en doutez peut-être, ne sont pas les mêmes.
Donc, un point important sur l'économie. Quels sont les autres thèmes qui dominent cette campagne des européennes en Grèce, Grégoire ?
Incontestablement, les politiques migratoires, Baptiste. La Grèce reste la porte d'entrée des migrants pour l'Europe. Et les conservateurs font un lien aussi étroit que dangereux entre immigration et économie. Thomaïs Papayoannou est journaliste correspondante en France pour la télévision publique grecque, le RT.
Le problème migratoire est un thème extrêmement difficile en Grèce parce que ce sont les portes d'entrée, les portes en pluriel parce qu'il y a les portes terrestres et les portes maritimes. Et ça n'arrête pas. Et ça, c'est un problème vraiment réel qui peut diviser, polariser, faire exploser une société. Il y a un immobilisme européen. On a beau signer des réformes, de nouveaux traités, etc., etc. Finalement, on revient à la même chose, c'est-à-dire que les pays frontaliers sont ceux qui doivent gérer constamment ces flux migratoires qui est incontrôlable et qu'on ne peut pas arrêter. Et ce qui fait en Grèce remonter le ressentiment que la population locale n'est pas favorisée par rapport à la population qui vient. C'est-à-dire, on donne beaucoup d'argent pour financer les flux migratoires et les premiers besoins de cette population-là. Et surtout, ces gens-là ont des attaches, quelque part, ailleurs.
Et du côté de la Grèce, comment est perçue l'Union européenne ? Comment les Grecs perçoivent-ils Bruxelles ?
Pour la population grecque, longtemps, l'Europe était synonyme d'économie, de remboursement de dettes. Un traumatisme en Grèce, m'a glissé la journaliste correspondante grecque. Mais aujourd'hui, je cite, ça va un peu mieux. Écoutez Thomaïs Papayoannou.
La perception, elle est non pas pessimiste ni optimiste. Ils considèrent que le pays ne peut être qu'ancré, ses intérêts nationaux et vitaux sont ancrés dans les traités européens. Et il y a aussi des souhaits. Les souhaits, ça serait d'avoir, pendant ces 10 années, de grandes souffrances, des suicides, des banqueroutes. Ce fut une hécatombe ces 10 ans. Ils espéraient qu'à côté ou parallèlement aux réformes économiques, ils auraient pu insister aussi aux réformes institutionnelles qui n'ont jamais eu lieu. Il y a un grand manque et une soif véritable de réformes, même constitutionnelles. Mais ça n'a jamais eu lieu. Et la réponse européenne, c'était on ne se mêle pas dans les affaires intérieures de ce genre-là.
Des relations Athènes et Bruxelles difficiles, mais qui vont donc mieux. La Grèce, ancien mauvais élève de l'Europe, qui se reconstruit, étend sa place et son influence au sein de l'Union européenne. Son premier ministre, aussi libéral que controversé, y est peut-être pour quelque chose. Lui qui est quelque peu affecté en ce moment par des récents scandales. On verra si le scrutin de juin prochain des européennes fragilise sa popularité au pouvoir.
Merci beaucoup Grégoire. Une série de dossiers à retrouver en intégralité sur rcf.fr, en replay et en format web. C'est là-dessus qu'on termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Nicolas Fournel qui était à la technique ce soir. Bonne soirée à tous sur RCF.